Vous écoutez
RMC. Bienvenue, bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h. RMC, Apolline Matin. Le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Avec à la une, le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde.
Vainqueur 1-0 donc hier soir de la grande finale contre l'Argentine, des scènes de liesse toute la nuit, vous verrez chez les Espagnols les larmes de Lionel Messi côté argentin et des sifflets aussi pour Donald Trump, on va largement y revenir. On fera le point dans le journal sur l'incendie, toujours pas fixé ce matin dans le Var près de Draguignan, où 10 maisons ont brûlé hier après-midi. Et nous serons en direct du Tarn, où les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilar.
Toute la nuit, les Espagnols ont fait la fête.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Pour célébrer leur victoire 1-0 en finale donc de la Coupe du Monde contre l'Argentine avec un but en prolongation à la 106e minute précisément de l'attaquant Ferran Torres qui a fait plonger les Espagnols dans une nuit, permettez-moi, de fiesta à New York où se jouait cette finale et où vous êtes pour RMC, Valentin Jamin.
Oui, en sortant du stade, les milliers de supporters, drapeaux jaunes et rouges sur le dos, maillots sur les épaules et maquillage sur les joues, chantent soulagés.
C'est incroyable, on a été très supérieurs. L'équipe qui jouait a gagné.
Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. C'est un rêve unique de vivre ça.
Car l'Espagne a complètement dominé, tiré à 20 reprises quand l'Argentine n'avait pas frappé une seule fois à la fin des 90 minutes, du jamais vu. Et l'unique buteur du match se nomme Ferran Torres.
Ce but est celui de 47 millions de personnes. Il n'est ni le mien, ni celui des 26 joueurs qui composent cette équipe. Et le destin avait écrit que nous allons gagner loin de notre peuple. Mais nous avons fait tout notre possible pour que nos supporters se sentent le plus près possible de nous.
L'Espagne est championne du monde 2 ans après son sacre à l'Euro. Invaincue en compétition depuis 2023, elle domine le football mondial et son sélectionneur Luis de la Fuente est fier.
Je ressens avant tout une immense fierté, une fierté pour cette génération de footballeurs qui a grandi avec cette idée de jeu et qui lui est restée fidèle. Je suis fier d'avoir eu la chance de les accompagner tout au long de ce parcours. Cela a été un véritable honneur.
Et ils pourront célébrer ça lors de leur retour à Madrid aujourd'hui.
En effet, ils sont attendus à la mi-journée à Madrid, où la presse dit ce matin que les Espagnols sont, et je les cite, les rois de tous les temps. Alors ça tombe bien, ils sont reçus par le roi et le Premier ministre avant une parade en fin de journée dans les rues de la capitale. 1 million de personnes sont déjà annoncées. Et avec cette victoire, eh bien, ils rejoignent la France et l'Uruguay au classement des doubles vainqueurs.
Alors côté argentin, cette fois, c'est pas tout à fait la même ambiance.
À l'image de Lionel Messi, qui rêvait de réaliser le doublé, Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York où se jouait donc cette finale. Une des images de la soirée, ce sont les larmes de Lionel Messi.
Oui, pendant de longues minutes et alors que l'Espagne était en train de soulever sa 2e Coupe du Monde, juste derrière lui, Lionel Messi est resté figé, larmes aux yeux, visage rougi devant les 50 000 Argentins qui avaient pris place dans le virage du stade de New York, des chants à la gloire de l'idole argentine et des applaudissements nourris pour dire merci à l'ensemble de sa carrière en sélection. Malgré la défaite, cette image marque l'histoire du football et en quelques minutes, elle a fait le tour des médias du monde entier et des réseaux sociaux. À 39 ans, Lionel Messi n'a pas évoqué publiquement la suite de sa carrière internationale à l'issue du match. L'Argentin qui a offert le Mondial 2022 à son pays pourrait avoir un dernier hommage à la maison lors d'une prochaine trêve internationale. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme aux 8 ballons d'or a joué ce dimanche à New York son dernier match de Coupe du Monde.
Comme Lionel Messi n'a pas marqué, eh bien c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, meilleur buteur tout court de l'histoire d'ailleurs des Coupes du Monde. Et si cette finale s'est terminée aussi tard, vous savez, c'est parce qu'il y a eu prolongation, mais aussi le fameux concert de 27 minutes précisément à la mi-temps avec Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber notamment parmi les artistes et en présence de Donald Trump, sifflé par le public pour le seul match du Mondial auquel il a assisté.
Et on débriefe tous ensemble cette finale et plus globalement ce Mondial. Est-ce que les plus forts ont gagné? Je vous pose la question ce matin, 32-16. On vous attend aussi sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Il est 7h04 sur RMC et les pompiers luttent toujours contre le feu ce matin dans le Var.
200 hectares parcourus par les flammes depuis hier après-midi dans la région de Draguignan, précisément à Tarado, là où le feu a pris avant de se propager aux arcs, de traverser l'autoroute et de brûler aussi 10 maisons. Les nouvelles sont rassurantes ce matin, nous disent les pompiers au téléphone, mais le feu n'est pas fixé et 150 habitants ont dû être évacués, nous raconte Alexandre Thibault.
Depuis sa maison, Julie a vu les flammes et le panache de fumée très proche.
En 10 minutes, il fallait évacuer.
Et sa priorité, son cheval dans son jardin.
On a par chance un club de l'autre côté de la nationale qui accueille tous les chevaux qui ont besoin d'évacuer. Donc j'ai marché une heure pour aller mettre le cheval en sécurité.
Elle et son compagnon ont trouvé refuge chez des amis. Son compagnon qui redoute que sa maison soit détruite.
Moi je suis architecte, ma société est à domicile. Potentiellement, j'espère le bien familial et... toute la structure entrepreneuriale pour tout, c'est que c'est une de mes plus belles réalisations en tant qu'architecte.
Alerté par un ami, Pierre-Marie tente de se rendre dans la commune, mais sur le chemin, il se retrouve pris dans les flammes.
Les poumons ont pris un coup. Mon bras, il a brûlé. C'est moi qui ai failli prendre feu.
Légèrement blessé, il arrive sur place et découvre des maisons ravagées.
Oh, il n'y a plus rien ici.
Les toits sont calcinés, les jardins brûlés, les vitres explosées.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il n'y a plus rien. C'est un tas de cendres. Il y a des animaux qu'on n'a pas pu sauver. C'est les maisons de vos amis, c'est tout ce que vous construisez qui se m'a brûlé. Ça fait très mal au cœur.
Il a hébergé cette nuit plusieurs sinistrés qui ont dû évacuer.
Alors ces incendies interviennent et on en parle ce matin dans un contexte de sécheresse et en plein débat parlementaire aussi sur le projet de loi de l'urgence agricole qui sera de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui après l'accord de la semaine dernière entre députés et sénateurs prévoyant la réintroduction de 2 pesticides et des mesures aussi pour faciliter le stockage de l'eau. Alors ce projet provoque la division du bloc central. Une réunion est d'ailleurs prévue dans l'après-midi à Matignon. On voit bien, Grégoire Morelli pour RMC, qu'il y a de la crispation autour de ce texte.
Oui, les agriculteurs verront leur présence renforcée au sein des commissions locales de gestion de l'eau, certes moins que ce que voulaient les sénateurs, mais il n'empêche, le porte-parole de la Confédération paysanne, Stéphane Gallet, redoute une mainmise des agriculteurs sur la gestion de l'eau.
Ce texte, il veut renforcer la présence de la profession agricole en particulier pour prioriser l'usage. C'est ce contournement démocratique qui est plus que problématique.
Le texte prévoit aussi de doubler d'ici 2035 le volume d'eau stockée dans les bassines, ce qui va induire pour François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future, un déséquilibre dans le partage de la ressource entre les différents secteurs, l'industrie, le nucléaire, les loisirs et l'agriculture. Il craint une guerre de l'eau.
Cette eau captée dans des gigantesques bassines, c'est de l'eau qui n'ira pas alimenter les nappes phréatiques. Et donc, si on multiplie ce type d'initiative, on risque, dans certaines régions où les ressources sont tendues, d'avoir à terme une concurrence entre l'agriculture et la consommation humaine.
Dans sa dernière version, le texte maintient néanmoins la priorité accordée à l'eau potable et à la lutte contre les incendies.
Et on vous attend au 32-16 si vous-même vous êtes agriculteur. On va y revenir sur ce sujet du stockage de l'eau. La guerre de l'eau est-elle déclarée? On y reviendra après le journal. Il est 7h08 et la confirmation est tombée hier après-midi. Les ossements retrouvés la semaine dernière dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubilard.
Retrouvés dans un champ à l'endroit où Cédric Jubilard avait dit avoir enterré le corps il y a presque 6 ans. Jean-Louis Forquès en direct de Camiac-les-Mines pour RMC où habitait le couple Jubilard. Vous nous dites qu'il y a une forme de soulagement chez les habitants.
Oui, effectivement, Quentin, soulagement des habitants, soulagement même s'il n'y avait vraiment pas de doute. Certains d'entre eux nous disent il faut tourner la page, il nous a menti, sous-entendu Cédric Jubilard, il nous a menti pendant des années. Pour autant, eh bien ce matin, on ne connaît pas encore vraiment les causes exactes de la mort de l'infirmière de Cagnac-les-Mines. Y a-t-il eu des violences et quel type de violence, par exemple? Pour y voir plus clair, des analyses complémentaires vont être demandées dans les prochains jours, les prochaines semaines. Une reconstitution également de la soirée de décembre 2020 ici à Cagnac est également envisagée, elle pourrait être programmée, ce qui fait dire, eh bien, à la défense de Cédric Jubilard qu'il faut reporter le procès en appel prévu à Toulouse le 21 septembre prochain. La balle est donc désormais dans le camp de la présidente des assises de cette cour d'appel.
Jean-Wilfried Forquès en direct donc ce matin pour RMC. Et puis c'était une journée pleine de rebondissements sur le Tour de France qui arrivait dans les Alpes au plateau de Solaison hier après-midi. C'est le Belge Remco Evenepoel qui a gagné devant le maillot jaune Tadej Pogacar. Quasiment une minute devant le Français Paul Sexas qui n'a pas pu suivre le trio de tête dans la dernière montée. Mais alors Romain Asselin, l'étape a surtout été marquée par l'abandon du Danois Jonas Vingegaard qui fait énormément réagir depuis hier après-midi.
Oui, le Tour du Danois a brutalement basculé à la sortie d'un rond-point piégeux, environ 20 km de l'arrivée. Marc Riff, directeur sportif de l'équipe Visma Lease the Bike.
Il y avait une moto devant le peloton et le pilote a un peu paniqué au moment de freiner. Il y a donc eu ce freinage brusque devant le groupe. C'est alors que Jonas a chuté, entraînant d'autres coureurs avec lui.
Depuis cet abandon, chacun se renvoie la balle. Le peloton arrivait trop vite dans la courbe, selon les organisateurs du Tour. Tadej Pogacar, lui, s'interroge sur le contrôle antidopage subi en pleine nuit par les deux premiers du général.
Lui, il a eu à 2h du matin. Je me suis demandé si ça avait pu jouer un rôle. Quand une nuit de sommeil est complètement perturbée, on est peut-être un peu moins lucide dans une descente. Et en un instant, tout votre tour peut basculer. Je ne dis pas que c'est la cause de sa chute, mais c'est peut-être un élément qui a aussi pu entrer en ligne de compte.
Remco Evenepoel, vainqueur hier au plateau de Solaison, nouveau dauphin de Pogacar, est d'accord avec le maillot jaune.
C'est un peu inhumain d'aller réveiller les coureurs à 2h du matin, 5h du matin. J'ai dit à Tadej, son équipe devait faire la même chose avec les contrôleurs, d'aller les réveiller à 2-3 heures la nuit. J'espère que c'est pas moi le malchanceux pour la nuit qui arrive maintenant.
Évacué dans une ambulance, Jonas Vingegaard sera opéré dans les prochains jours.
Et aujourd'hui, c'est repos sur le Tour de France avant de repartir demain au bord du lac Léman pour un contre-la-montre entre Evian et Thonon-les-Bains.
C'était Quentin Vinet pour le journal sur RMC, 7h11. Des messages, Victor, sur le WhatsApp RMC après cette finale, ça débriefe.
Ah oui, ça débriefe et ça revient sur le sacre de l'Espagne. Bruno nous dit, ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai, l'Espagne a été meilleure, la meilleure équipe de la compétition, peut-être pas les plus flamboyants, mais un jeu qui a réussi à avoir des résultats. On a Ludo qui nous dit, étant franco-espagnol, c'est vrai que j'étais un petit peu pour les deux pays hispaniques, avec un penchant pour l'équipe de France, mais pour ça, c'était déjà trop tard, mon cher Ludo. On a Loïc qui, lui, nous dit, quand j'ai su que c'était Donald Trump qui allait remettre la Coupe du Monde, j'ai tout de suite éteint la télé. Donald Trump qui nous a fait fuir Loïc de devant l'écran. Et puis Anto nous redit que c'est amplement mérité pour la Roja.
Voilà, racontez-nous votre soirée. Est-ce que c'est une victoire méritée de l'Espagne? On en débat au 32-16. On attend vos messages sur le WhatsApp RMC. C'est le 06 12 424 424, 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on en parlait dans le journal, la France est à sec, sécheresse exceptionnelle, historique, qui bat déjà les records de 1976 et de 2022. 99 départements concernés par la vigilance et 55 qui sont considérés comme étant déjà en crise. Nous ne sommes que le 20 juillet avec en toile de fond ce débat sur la loi d'urgence agricole et ce vote attendu ce soir. Cette loi d'urgence agricole qui envoie un signal terrifiant. C'est le parti pris d'Yves Tremblay, il est hydrologue, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier. Il est avec nous dans un instant et vous réagissez, vous débattez au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h15, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story en direct. Nous sommes le lundi 20 juillet et la sécheresse que nous traversons est déjà historique, pire que celle de 1976. C'est la quasi-totalité du territoire qui est en vigilance, 55 départements en état de crise. Bonjour Yves Tremblay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement. Tout cela dans un contexte, et on va y revenir, où le Parlement doit se prononcer ce soir sur une loi agricole qui concerne justement, notamment, la question du stockage de l'eau. D'abord, en quoi cette sécheresse est historique et où est-elle la plus inquiétante?
Alors, elle est historique à plusieurs niveaux. Déjà, il faut se rappeler qu'on a vécu trois épisodes de canicule successifs avec des valeurs exceptionnelles pour la saison et on a battu le record de température sur la France. Tout ça combiné à un relatif déficit des précipitations au printemps. On estime qu'on a reçu un peu moins de 30% de pluie. Moins 30% de pluie par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et ce qui veut dire que malgré les épisodes de fortes précipitations en début d'année sur la majeure partie du territoire, malgré ça, en 3-4 mois, on arrive à des seuils assez inquiétants en termes d'humidité du sol, en termes de niveau des cours d'eau, et ça à l'échelle quasiment de toute la France.
Près d'un tiers des cours d'eau sont sous les minima observés ces 20 dernières années. Il y a des images très impressionnantes de la Loire, notamment, qui est totalement à sec à certains endroits. Est-ce qu'on risque à un moment de manquer d'eau potable ?
Alors, oui et non. On peut risquer localement, par exemple, il faut imaginer des villages qui sont alimentés, par exemple, par un captage, par un puits, qui peuvent s'assécher dans un contexte comme ça de sécheresse. On a vu des scènes dans les médias de camions-citernes qui amenaient de l'eau, oui. Mais ça, c'est vraiment des choses assez locales. À grande échelle, en France, non, il n'y a pas de risque sur l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de tout le pays.
Mais localement, ça pourra arriver?
Oui, localement, on l'a vu dans certaines communes, par exemple, pas loin de chez moi, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude. Mais c'est des effets assez locaux.
On est prêt à... Est-ce qu'on a pris la mesure de ce qui est en train d'arriver? Est-ce que la France est préparée?
Alors, on dirait que non, puisque, alors, il faut rappeler que ces sécheresses, malheureusement, s'inscrivent dans le temps long. C'est vraiment une des conséquences connues et documentées du changement climatique, l'augmentation des gaz à effet de serre, l'augmentation des températures, donc beaucoup plus d'assèchement des sols. Et malheureusement, ce type d'épisode n'est pas du tout un accident isolé. On voit clairement une plus grande récurrence des sécheresses ces dernières décennies. Et malheureusement, tous les scénarios pointent vers une augmentation future importante.
Alors, on a souvent parlé des canalisations qui fuient. Hein. On perd beaucoup d'eau dans nos d'eau potable dans nos canalisations. Et puis, il y a une chose assez étonnante et qui est d'ailleurs très française, puisqu'à l'étranger, ça peut être parfois différent. On continue de mettre, en tout cas même d'imposer par la loi, le fait de mettre de l'eau potable dans nos chasses d'eau. Est-ce que on marche sur la tête sur ce point-là, par exemple? Est-ce que ça fait partie des choses qui, selon vous, il faudrait changer?
Alors, effectivement, ça, c'est des leviers qu'on connaît, hein, qu'on connaît depuis longtemps. On peut se poser la question pourquoi on n'avance pas plus vite là-dessus. Les pertes en eau, effectivement, on estime à 20%. Donc, 1 litre sur 5 qui est pompé, traité et distribué en France est perdu dans des tuyaux percés. Donc ça, c'est une marge de manœuvre très importante, récupérer 10 à 15% d'eau supplémentaire. Et la réutilisation, effectivement, on peut citer des pays pas loin de chez nous, hein, l'Espagne ou l'Italie, autour de 7, je crois, 10%, voire plus d'eau réutilisée, alors qu'en France, on est à 1%. Donc effectivement, ça, c'est des marges de manœuvre extrêmement intéressantes, déjà, pour envisager des solutions pour faire face à ces épisodes de sécheresse de plus en plus répétés.
Alors tout cela intervient, je le disais, au moment où le Parlement débat de cette loi d'urgence agricole, où l'un des points de tension est très exactement cette question de l'eau et cette question du stockage de l'eau, avec des agriculteurs qui réclament plus de liberté pour stocker l'eau, en disant finalement c'est du bon sens de stocker l'eau quand elle est abondante l'hiver, et elle a été, vous le disiez, abondante cet hiver, pour la conserver pour des périodes comme aujourd'hui où on est en période de sécheresse. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui est de dire c'est du bon sens, il y a de l'eau en hiver, on la garde pour l'été?
Alors, vous avez dit plus de liberté par les agriculteurs. En fait, il y a aussi surtout une volonté de diminuer les instances de concertation, hein, de se mettre autour de la table pour décider comment on gère l'eau. Ça, c'est une régression très importante. Effectivement, la question du stockage, on peut regretter qu'elle soit mise en tête de liste comme seule et unique solution d'adaptation. Or, le stockage, il n'est pas du tout possible partout, dans tous les contextes géologiques, par exemple entre le nord, le sud de la France, et bien même là, dans les zones où il y a des nappes phréatiques rapides ou des nappes lentes. Donc, il y a des contextes pour lesquels, par exemple, l'installation de bassines n'est pas du tout pertinent, ou même de barrages, ou même de retenues collinaires, qui sont des ouvrages beaucoup plus petits. Mais là aussi, il y a des contextes locaux qui peuvent ou pas permettre leur installation. Et effectivement, il faut insister sur un point dans la communauté scientifique. Toutes les recommandations qui ont été faites, c'est d'insister sur un mix de solutions à l'échelle des territoires. Alors, le stockage en fait partie. Il ne s'agit pas du tout d'être pour ou contre le stockage. Le stockage, dans certains cas, est tout à fait adapté. Ça fait des milliers d'années que les hommes stockent l'eau de différentes manières. Mais diriger ça comme première, seule et unique solution, c'est absurde. Et c'est ce qu'on appelle une solution de maladaptation, en fait. Ça ne tiendra pas en contexte changement climatique, notamment parce qu'on s'attend à une variabilité du climat beaucoup plus forte. Et là, on en a un exemple catastrophique. Des pluies exceptionnelles au printemps et une sécheresse exceptionnelle en début d'été.
Merci à vous, Yves Tremblay, directeur de recherche en hydrologie à l'Institut de recherche pour le développement. On sera tout à l'heure avec un agriculteur. Vous nous écoutez, vous êtes vous-même agriculteur, viticulteur, bien sûr. Venez répondre à Yves Tremblay. Le débat continue sur RMC au 32-16. On vous attend aussi sur le WhatsApp RMC. Merci à vous. Il est 7h21 et dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et puis l'économie avec Manu Le Chypre et le bar qui vient de repasser cette nuit, hein, au-dessus des 90$.
Oui, et on va voir comment on peut s'en sortir sur les prix au carburant, et on va passer au banc d'essai. La proposition d'Éric Coquerel qui veut limiter les marges des raffineurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait intéressant pour nous?
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 sur RMC.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Manu Le Chypre. Et donc le baril qui est repassé au-dessus des 90$. Et dans ce contexte, Manu, le député LFI Éric Coquerel plaide pour un blocage des prix des carburants en jouant sur les marges des raffineurs. Il vise directement Total, qui est à la fois distributeur et raffineur.
Oui, le chiffre du jour, ça pourrait être ces 13 centimes que représentent aujourd'hui les marges de raffinage. Alors, Éric Coquerel, il a raison sur un point, hein, les marges des raffineurs se sont bien envolées depuis le début de la guerre dans le Golfe Persique. En janvier et février, elles étaient environ à 3 ou 4 centimes par litre. Elles sont aujourd'hui à plus donc de 13 centimes par litre. Alors, est-ce que s'attaquer à ces marges de raffinage aurait un impact pour nous sur les prix à la pompe? Bah, pas tant que ça, parce que regardez, les prix ont quand même flambé jusqu'à 40-50 centimes le litre pendant cette guerre. Bon, là, on jouerait sur 10 centimes. En plus, il faut bien voir que on aurait de marge en France que sur les carburants raffinés en France. Or, sur le gazole, on a la moitié de notre gazole qui est importé de l'étranger, donc fabriqué par des raffineurs sur lesquels il serait impossible de d'avoir un impact sur les marges. Et puis alors vous allez me dire, les carburants sans plomb, il y en a 90% à peu près qui est fabriqué en France, sauf qu'il y en a que la moitié qui est fait par Total Énergie. Et puis la réalité, c'est que sur le long terme, le raffinage, ça n'est pas une activité rentable.
Alors, sauf qu'en ce moment, ça l'est, rentable.
Alors, c'est vrai, mais c'est une activité qui est extrêmement volatile. Or, si vous voulez investir dans le raffinage, il vous faut quand même des perspectives assez stables. Et la réalité, c'est que sur le long terme, ce raffinage est une activité déficitaire. Il y avait 24 raffineries en France dans les années 70. Il n'y en a plus que 7. Et le paradoxe, c'est qu'on reproche à Total de payer peu ou pas d'impôts en France. Bah, la réalité, c'est que c'est parce que Total fait pas ou peu de profit en France, tout simplement parce que son activité principale en France, le raffinage, ne lui rapporte que très peu la plupart du temps.
Emmanuel Lechypre, vous restez avec nous parce qu'on parlera tout à l'heure d'un autre sujet éco. C'est le bilan un peu économique. On verra qui est le grand gagnant de la Coupe du Monde sur le plan économique.
Avant même le coup d'envoi hier soir.
Et on le savait, il n'y avait pas d'enjeu en finale. Allez, tout de suite à 7h25 sur RMC, RMC Story. C'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. On va parler vacances et tourisme.
Cocorico. Arthur, la France reste la première destination touristique au monde, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère du Tourisme.
Et oui, avec un record de fréquentation, en 2025, 102 millions de visiteurs internationaux se sont rendus en France, c'est-à-dire 2 millions de plus qu'en 2024. Et ils ont beaucoup dépensé, hein, puisque les recettes touristiques atteignent 77,5 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 9% en un an. Alors attention quand même, hein, nous sommes talonnés par l'Espagne, deuxième du classement, avec 97 millions de visiteurs.
Ça fait longtemps que la France attire le monde entier.
Ah bah oui, ça a commencé il y a plus de deux siècles. Et d'ailleurs, Mathieu, est-ce que vous savez d'où vient le mot « touriste » ?
Pas du tout.
Alors, d'ailleurs, c'est un anglicisme, hein, du mot anglais « touriste ». Mais avant ça, ça vient du grand tour. Grand tour, tour, touriste. Alors, qu'est-ce que c'est le grand tour ? Le grand tour, c'était une mode de la fin du XVIIIe siècle. Avant d'entrer dans l'âge adulte, les jeunes gens de bonne famille faisaient le tour des capitales européennes pour découvrir les arts et la culture de leurs voisins. C'était la naissance du tourisme moderne, si vous préférez, mais réservé aux riches. Et dans ce grand tour, Paris était l'étape la plus importante.
Ah, qui étaient les premiers touristes à venir chez nous ?
Alors, pour l'écrasante majorité, c'était des Anglais. Hein, et ils ne se contentaient pas de visiter les Anglais, puisqu'ils vont participer très concrètement au développement du tourisme. Et ça va commencer dans le sud de la France, au 19e siècle. Prenez la ville de Cannes. Au début des années 1830, un Anglais qui s'appelait Lord Burgham se rendait en Italie en passant par la France, sauf qu'il n'arrive pas à passer la frontière. Donc il décide de faire étape à côté, dans un petit village de pêcheurs, un peu paumé. Ce village, c'était Cannes. Et à l'époque, Cannes, c'était pas grand-chose.
Mais il va tomber amoureux de la ville.
Totalement amoureux, hein. Il est à tel point qu'il va se faire construire une villa. Cette villa, d'ailleurs, elle existe toujours à Cannes, hein. Et au fil des ans, il va y inviter tous ses copains aristocrates anglais. Petit à petit, Cannes devient donc the place to be des Anglais pour passer l'hiver, hein. Il faisait beau, chaud. Tout ça au bord de la mer, c'était donc l'idéal. Voilà comment cette ville est devenue une destination légendaire de la Riviera.
Alors, Paris doit aussi quelque chose à un Anglais ?
Absolument. Cet Anglais, c'est Thomas Cook. Et Thomas Cook, c'est l'inventeur des agences de voyage. Exactement. En 1855, Paris accueille l'exposition universelle. Thomas Cook en profite pour monter les premiers voyages organisés pour visiter cette exposition. Le succès est au rendez-vous. Mais il va faire encore plus fort, cet Anglais. En 1870, plusieurs monuments iconiques de Paris vont brûler pendant les affrontements de la Commune. Ni une ni deux, Thomas Cook organise des séjours pour visiter les ruines. Donc là, des milliers d'Anglais débarquent à Paris. Et le grand jeu, c'était de repartir avec une relique des incendies. Donc les Anglais prenaient une pierre, un petit débris et hop, retournaient en Angleterre. Ça va devenir un business florissant et faire de Paris l'attraction numéro un en Europe. Donc vous voyez, Mathieu, même quand elle est au plus bas, la France attire le monde entier.
Merci Arthur Chevalier.
Quand l'histoire éclaire notre actualité, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. Allez, dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, on part à New York, l'Espagne sacrée championne du monde hier soir face à l'Argentine. Deuxième étoile pour la Roja. On sera en direct avec Jean-Louis Tour qui nous a fait vivre ce match en direct et plus globalement qui nous a fait vivre tout ce mondial sur RMC. On fera le bilan de cette Coupe du Monde et on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC. Il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'Espagne championne du monde. Scène de liesse toute la nuit chez les Espagnols. Victoire 1-0 face à l'Argentine. Messi et ses partenaires en pleurs. L'incendie près de Draguignan, toujours pas fixé. Des centaines de pompiers toujours mobilisés. Près de 200 hectares brûlés. La France va-t-elle devenir le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux en moins de 15 ans ? Les parlementaires en débattent aujourd'hui.
L'Espagne décroche donc sa deuxième étoile.
Victoire cette nuit 1-0 après prolongation contre l'Argentine. Ferran Torres a libéré tout un peuple à la 106e minute de jeu. Scène de joie dans toute l'Espagne et également à Paris où des supporters espagnols se sont rassemblés à la plaine Saint-Denis près du Stade de France. Notre reporter Corentin Roland a vibré avec eux cette nuit.
Un but de la libération de l'attaquant Ferran Torres au bout de la nuit. Et la centaine de supporters espagnols rassemblés à Saint-Denis peut chanter sa fierté. L'Espagne est championne du monde face à l'Argentine. L'issue a eu raison de la voix de Didier, franco-espagnol, maillot de la Roja sur le dos.
Indescriptible parce que ça a été un match tendu, on a été aux prolongations. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable.
La victoire 1-0 face à l'Albi Céleste s'est dessinée tardivement, mais l'Espagne a aussi battu le Portugal, la Belgique ou la France avec un seul but encaissé dans le tournoi. Elle est aujourd'hui récompensée pour Julien et Laura.
On a produit du beau jeu, je trouve. Les Argentins n'ont pas existé.
On l'a mérité amplement. Franchement, on a dominé tout le match. T'étais obligé que la deuxième étoile elle vienne chez nous. Il n'y avait pas le choix.
Le nouveau symbole, justement, sur toutes les lèvres.
Deux étoiles ! Deux étoiles, monsieur ! Viva España !
Car l'Espagne rejoint la France avec deux Coupes du Monde à son palmarès, mais les supporters ne sont pas rassasiés et rêvent déjà d'une troisième étoile à domicile en 2030.
Autre ambiance côté argentin, ils n'ont pas réussi à conserver leur titre de champion du monde, quatrième finale de leur histoire perdue. Lionel Messi en larmes lors de la remise de la médaille d'argent et déception immense également pour le sélectionnaire Lionel Scaloni.
Nous sommes tristes de ne pas avoir pu remporter la Coupe du Monde. Un immense merci à tout le public, à tous ceux qui nous ont insufflé le peu d'énergie qui nous restait. Il faut leur rendre hommage. Maintenant, le match est terminé et il faut aller de l'avant. Donc merci, merci est le seul mot qui me vient à l'esprit et merci aussi au public. Vous souffrez sans doute autant que nous, mais ce sont aussi des moments qui permettent de renforcer tout un pays.
Le milieu de terrain espagnol, Rodri, a été élu meilleur joueur du tournoi. Kylian Mbappé termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts et meilleur buteur de l'histoire du mondial avec 22 réalisations devant Lionel Messi. L'autre image de la soirée, c'est l'omniprésence de Donald Trump, hué lors de son entrée sur la pelouse, puis un peu trop présent au moment de remettre le trophée.
Et Donald Trump qui était présent au stade, ce qui ne l'a pas empêché de lancer la riposte au Moyen-Orient.
De nouvelles frappes américaines cette nuit contre l'Iran, 9e nuit de suite, et Henri Arnaud, correspondant à Washington pour AMC. Donald Trump veut venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient, notamment un militaire tué hier en Irak.
Ce soldat a été tué lors d'une opération de neutralisation d'un drone attribué à l'Iran et abattu par les Américains. Mais au-delà de cet incident, c'est toute la confrontation entre Washington et Téhéran qui se durcit depuis plusieurs jours avec des frappes américaines et des menaces de riposte iranienne. Ce dimanche soir, Donald Trump a une nouvelle fois affiché sa fermeté, affirmant que l'Iran a été lourdement affaibli ces dernières heures à nouveau avec des frappes en hommage à ses militaires et ses soldats tués. Il a également laissé entendre que cette campagne militaire pourrait se poursuivre. Une nouvelle escalade qui pose désormais une question centrale. Après la mort de plusieurs militaires américains et la multiplication des frappes, jusqu'où Washington et Téhéran sont-ils prêts à aller ?
Il est 7h34 sur RMC et les pompiers luttent toujours contre les flammes dans le Var.
Un feu toujours actif ce matin entre les Arcs-sur-Argent et Tarado près de Draguignan. Mais la situation est favorable selon les pompiers. Près de 200 hectares ont brûlé, 10 maisons ravagées par les flammes, 150 personnes évacuées. État des lieux ce matin du lieutenant-colonel François Baretti, commandant des opérations de secours.
Ce sont 360 personnes qui ont œuvré toute la nuit, qui ont noyé, traité les lisières, traité les points chauds, les souches, aidé aussi la population à regagner les maisons sinistrées. La situation est devenue favorable dans notre lutte. Le feu n'est pas actuellement fixé, mais il est quand même maintenu dans son enveloppe. On a toujours un petit point un petit peu délicat sur un endroit qui est très inaccessible pour le personnel. Cet endroit va être travaillé ce matin par les tractopelles pour pouvoir tracer une piste et permettre aux engins de ceinturer vraiment l'entièreté du sinistre.
Autre conséquence de cet incendie, le réseau SNCF entre Marseille et Nice, fortement perturbé, des TGV et TER ont été annulés hier.
7h35, faut-il couper les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
C'est le débat qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la majorité numérique passe en commission mixte paritaire avant un vote décisif demain dans l'hémicycle. Si le texte est adopté, la France pourrait devenir le premier pays d'Europe à interdire l'accès à TikTok, Snapchat, Instagram aux adolescents de moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. Un texte qui divise, mais Bérangère Bouquillon, ses défenseurs, le juge urgent face au risque lié à l'exposition des jeunes aux écrans.
Oui, parce qu'il est prouvé que les réseaux sociaux sont mauvais pour la santé physique et psychique des adolescents. Et en premier lieu, le réseau chinois TikTok. Des adolescents y sacrifient leur sommeil et même quelquefois leur vie. Martine est la maman de Lilou qui s'est suicidée en 2023.
Elle avait 14 ans, ça faisait un mois qu'elle avait 14 ans.
Martine lui a offert un smartphone l'été de sa 6e. Elle autorise l'application TikTok l'année suivante.
Elle regarde des vidéos où je vois des gens qui sont en dépression et qui en parlent. Et il y a des filtres qui rendent ça glamour et il y a des petites musiques. Et je vois qu'elle enchaîne des vidéos comme ça.
Comment se scarifier ? Quand tu seras morte, tu seras libérée. Toutes ces vidéos ont été vues par Lilou. Martine a donc porté plainte pour abus de faiblesse contre TikTok.
S'il n'y avait pas eu TikTok, on aurait eu plus de chances de pouvoir la sauver. Ça a été avéré par l'enquête et par les vidéos qu'on a retrouvées, quoi.
La pédiatre Sylvie Dieuzica, membre du collectif Surexposition Écran, estime qu'il y a urgence à légiférer pour envoyer un signal fort à tous les parents.
Les messages sont brouillés. Un jour on dit « Ah, c'est dangereux », puis un jour on dit « Ah ben non, c'est pas si mal, il faut vivre avec notre temps ». Non, le produit est dangereux. Il est fait pour être addictif, il faut que l'État donne un message très fort.
La proposition de loi prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Tiens, venez nous raconter comment vous gérez cette question des réseaux sociaux avec vos proches, avec vos ados. Est-ce une bonne idée, cette majorité à 15 ans, limiter l'usage des réseaux sociaux au moins de 15 ans, l'interdire même? Est-ce que c'est une bonne idée? On vous attend au 32-16.
Et Sébastien Lecornu convoque en urgence les présidents de groupe du Bloc Central à l'Assemblée en début d'après-midi à Matignon. Au menu des discussions, le projet de loi d'urgence agricole, texte qui réintroduit deux insecticides interdits en France. Les députés doivent le voter ce soir, les sénateurs demain. RMC, 7h37. Paul Sexas a souffert hier sur le Tour de France. Le Français a perdu son maillot blanc de meilleur jeune mais reste toujours en contact avec les favoris. C'est donc une bonne nouvelle pour lui.
C'était vraiment dur, c'est parti très loin. J'ai géré mon effort, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus à certains moments. J'ai été trop hésité, à la fin j'ai fini quand même fort. Ah, ça reste une bonne montée et je reste dans le coup général, donc ça va. J'ai réussi à rester solide pour l'instant, j'ai bien récupéré et voilà, j'espère que ce sera aussi bien sur la troisième semaine.
Evenepoel a remporté l'étape devant Pogacar et s'empare de la deuxième place. C'est sa première victoire sur la grande boucle. Jour de repos aujourd'hui.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Vichy aujourd'hui à 18h30.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 6, Maximilien, son outsider, et le 3.
C'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 7h38 et on va retourner dans le Var en direct ce matin avec vous, William Vogel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole du SDIS 83, le service départemental d'incendie et de secours. Vous êtes sur le terrain du côté des Arcs sur Argent où 200 hectares ont brûlé depuis hier. On en est où ce matin? Est-ce que le feu progresse toujours?
Le feu n'a que progressé cette nuit. On a eu quelques reprises de feu qui sont normales sur un sinistre de cette taille. On a forcément des reprises qui peuvent survenir et c'est tout l'objectif de laisser des sapeurs-pompiers au plus proche du sinistre. Donc cette nuit, on avait plus de 600 sapeurs-pompiers qui étaient mobilisés, qui ont fait ce travail de pionnier, ce travail de fourmi. En parallèle, sur les secteurs inaccessibles, on a des bulldozers qui créent des pistes afin de permettre aux moyens plus conventionnels, donc nos camions de sapeurs-pompiers, d'intervenir au plus proche de ce brasier et ainsi pouvoir fixer cet incendie, on l'espère, très rapidement.
On sait qu'une dizaine de maisons ont déjà brûlé, une centaine de personnes a été évacuée hier soir. Est-ce que des zones habitées sont toujours menacées ce matin ?
Ce matin, nous n'avons plus de zones habitées menacées. Cependant, les lisières sont chaudes. Les températures ont été importantes toute la nuit, ne vont faire qu'augmenter avec le lever du jour. L'humidité va, elle, également baisser. Donc, on a ce fameux cocktail explosif qui sera renforcé avec le vent. Donc, c'est une journée à risque pour laquelle on va être le plus vigilant possible.
Journée à risque, ça veut dire que ce feu n'est toujours pas fixé. Vous avez espoir, malgré tout, d'y parvenir aujourd'hui?
C'est un des objectifs du commandant des opérations de secours, justement, de fixer ce feu dans la matinée.
Il y a eu un pompier légèrement blessé. Est-ce que le bilan a évolué?
Alors les conditions de lutte sont quand même relativement difficiles pour nos sapeurs-pompiers. Hein. Comme vous le voyez, il fait chaud pour tout le monde, notamment pour nos sapeurs-pompiers qui sont en plus en train de fournir des efforts conséquents. Donc par chance, le bilan n'a pas augmenté et on fait tout pour qu'il n'augmente pas de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on a des éléments déjà sur l'origine de cet incendie?
Alors sur l'origine de cet incendie, on a les services enquêteurs qui travaillent dessus. Donc nous, on est vraiment concentrés sur les opérations de lutte. Monsieur le préfet du Var organisera un point presse un peu plus tard dans la matinée, durant lequel peut-être il viendra sur cet élément.
Le trafic ferroviaire est toujours interrompu ce matin sur cette ligne qui relie Nice à Marseille?
Alors, totalement interrompu, non. Il y a des marches lentes qui sont organisées. Et donc, il y a un petit trafic qui a repris, mais pas dans son intégralité encore.
Trafic a repris, donc pas dans son intégralité, donc de façon plus lente et perturbée. Merci beaucoup, William Vogel, pour ce point en direct ce matin depuis le Var. Vous êtes le porte-parole du SDIS 83. Plus de 600 pompiers donc sur le terrain et à pied d'œuvre encore ce matin pour cette journée à risque avec beaucoup de chaleur et du vent dans le Var aujourd'hui. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va aller au 32-16, c'est Alexis qui est avec nous ce matin. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors cette finale de Coupe du Monde, vous l'avez regardée jusqu'au bout de la prolongation?
Non, j'ai dû me coucher avant la fin, j'espérais que ça se finisse en 90 minutes, mais ça a duré un peu plus que prévu.
Vous avez fait comme Victor, non, en fait. Hein. Vous avez pas tenu jusqu'au bout, wow, parce que le réveil sonnait tôt.
avec un petit qui se réveille à 5h, c'est un peu compliqué de tenir jusqu'à 1h du matin. Ouais.
Pour vous, c'est les plus forts ont gagné?
Oh, clairement. Clairement, les plus forts ont gagné. L'Argentine ne méritait même pas d'être en finale, vu le niveau qu'ils ont montré depuis le début de la Coupe du Monde. Pour moi, en tout cas. L'Espagne avait sa place en finale, mais c'était la seule équipe qui avait sa place en finale hier soir.
Donc pas de regret sur les Bleus. On a été battu par les champions du monde. C'est peut-être une consolation.
Ben moi j'avais aucun espoir pour l'équipe de France. Pour moi c'était plus des individualités qu'un collectif. Donc on sait très bien que des individualités dans une Coupe du Monde ça fonctionne pas, ça ne donnera jamais de résultat. Ils ont eu des équipes entre guillemets faciles à jouer jusqu'au quart de finale et qu'ils ont eu une vraie équipe de football en face. Il y avait plus rien quoi.
Alors il y a quand même une équipe qui a fait beaucoup parler, c'est l'Argentine, avec un style de jeu assez rugueux hier soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Messi finalement assez décevant?
Oh ben ça c'est pas surprenant. Messi il a maintenant 39 ans, il a été à son top niveau il y a 5-6 ans. Là maintenant c'est un peu plus compliqué. L'équipe d'Argentine ne joue pas que pour Messi non plus, ils essaient d'avoir un collectif, même s'ils ont un jeu plutôt physique à la sud-américaine en fait.
Il y a des messages
du Paraguay, mais un peu meilleur en collectif. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis un jeu à la sud-américaine, ça veut dire jouer des coudes et parfois faire des prises de judo. Hein. C'est quand même assez impressionnant sur le terrain hier soir. Des messages qui vont dans ce sens-là aussi, Victor.
Il y a beaucoup de messages qui pensent comme Alexis. Je vois Steph et Stéphane, pas la même personne, qui tous deux nous dit l'Argentine n'a pas voulu jouer. Elle a joué assez salement. Finalement, elle mérite un peu sa défaite. Et puis certains comme Michael nous disent c'est quand même la fin d'une époque, Lionel Messi au Mondial. Ça fait un petit quelque chose de le voir. Alors déjà en larmes, mais de savoir qu'on ne le verra plus.
Bon, on va revenir sur tout ça depuis New York, puisque Jean-Louis Tour est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Et merci d'avoir veillé tard à New York, puisqu'il est plus d'une heure du matin là-bas pour nous, après nous avoir fait vivre cette finale en direct et tout ce mondial avec toutes les équipes d'RMC Sport. On se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qu'on retient de cette finale? L'Espagne, championne du monde. L'Argentine, le dernier match de Messi, sans doute en Coupe du Monde. Et la suite aussi pour les Bleus avec Zidane qui arrive. On va pouvoir en dire un mot. Et on vous attend au 32-16. Vos messages, c'est sur le WhatsApp RMC. C'est 06 12 424 424. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup Alexis, à bientôt.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h45 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Viva España, la Coupe du Monde part donc à Madrid. L'Espagne règne sur le foot mondial. Elle s'est sortie du piège argentin pour aller conquérir cette deuxième étoile hier soir. 1-0 après les prolongations. Jean-Louis Tour est avec nous depuis New York. Salut Jean-Louis, rédacteur en chef foot RMC Sport. Jean-Louis qui nous a fait vivre ce mondial et cette finale en direct hier soir sur RMC. On va faire un petit bilan ensemble. Jean-Louis, si on regarde l'ensemble de la Coupe du Monde, est-ce que les plus forts ont gagné ?
Oui, les plus forts ont gagné. L'Espagne, c'était la meilleure équipe. On l'a vu au fur et à mesure de la compétition. Elle n'a pas forcément très bien commencé avec ce match contre le Cap-Vert 0-0. Mais ensuite, il y a une réelle montée en puissance. On l'a constaté, on était aux premières loges avec l'équipe de France pour voir la domination espagnole qui s'est poursuivie encore contre l'Argentine lors de cette finale. Parce que il n'y a pas eu photo hein, entre les deux, même si ça a mis du temps à se décanter. Il a fallu passer par la prolongation. Les Espagnols ont quand même affiché leur supériorité assez nettement.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe d'Argentine de Lionel Messi qu'on a vu hier soir apathique, incapable d'aller se procurer la moindre occasion devant le but?
Bon, déjà, ils ont été impuissants face justement à cette équipe d'Espagne qui est quand même une équipe très forte. Même nous, l'équipe de France, avec nos quatre attaquants dont on a beaucoup parlé, nos talents offensifs, on a mis 85 minutes à faire un tir cadré aux Espagnols. Donc il y a la difficulté de jouer contre cette équipe. Et puis malheureusement, l'Argentine est tombée dans la caricature de son football hier soir en se persuadant que la seule façon d'être champion du monde, c'était d'aller chercher une séance de tir au but et surtout de ne pas prendre de but contre cette équipe espagnole. Et du coup, ils ont poussé leur style de jeu à l'extrême, en truquant parfois, en allant chercher des fautes très souvent, et en offrant des images déplorables, comme à la fin du match où il y a eu une petite bagarre générale qui a éclaté.
Ouais, avec ce carton rouge aussi, cette équipe qui a fini à 10, et Messi qu'on n'a pas beaucoup vu. Justement, peut-être un mot de l'arbitrage. Il a beaucoup été question d'arbitrage dans les débats autour de cette Coupe du Monde. Si on fait le bilan, il y a vraiment quelque chose à redire?
Bon, il y a eu des erreurs d'arbitrage comme tout le temps dans le foot, mais là j'ai l'impression que dans les commentaires on est allé plus loin. Chaque match avait sa théorie du complot. Le complot le plus énorme, c'était de dire que on avait décidé que l'Argentine soit championne du monde parce que ça faisait une belle histoire que Messi gagne la Coupe du Monde une deuxième fois. La conclusion du match d'hier, c'est qu'il n'y avait pas de complot. Et quand il a fallu sortir le carton rouge pour Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, il a été sorti. Il y a eu le retour de la polémique lorsque le but espagnol a été refusé, mais il y a bien eu un contact juste avant qui explique l'annulation du but. Donc voilà, moi je pense que malheureusement ces matchs de compétition internationale provoquent beaucoup d'émotions chez tous les supporters, et la face sombre de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de théories du complot, et j'ai peur que malheureusement ça se reproduise sur les éditions suivantes.
Alors la France, disons un mot peut-être de la France pour terminer. Jean-Louis qui termine quatrième, on va pas revenir sur le match de samedi soir, la défaite face à l'Angleterre, et on va surtout oublier la première période. Non, il y a une déclaration de Didier Deschamps qui interroge ce week-end sur son départ. Il dit qu'il a pris cette décision non pas pour lui, mais parce qu'il y a, dit-il, un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à lui. Est-ce qu'on sait à quoi il fait référence ?
Oui, il y a plusieurs facteurs. Déjà les critiques qui viennent des médias. Donc ça, il a eu de plus en plus de mal à les digérer, ces critiques. Alors, elles existent depuis le début de son mandat. Hein. Et nous, sur RMC, on est quand même bien placés pour en parler, puisqu'on fait partie des médias qui critiquent Didier Deschamps depuis le début. Malgré les victoires, parfois, le style de jeu est pointé du doigt. Mais là, la différence, selon les infos qu'on a pu avoir, c'est aussi sa relation avec le président de la Fédé, Philippe Diallo, qui est une relation beaucoup moins fluide que ce qu'il avait auparavant avec Noël Le Graët. Et je pense que Deschamps a senti que face à ces différentes critiques, il n'était pas aussi soutenu que d'habitude, et ça lui a pas plu tout cela, sachant que Philippe Diallo attendait quand même le bon moment pour placer Zinedine Zidane comme successeur de Didier Deschamps, puisque c'est pas lui, Philippe Diallo, qui avait prolongé Didier Deschamps la dernière fois, c'était encore Noël Le Graët. Donc il y a eu ce petit climat de défiance entre deux qui peut expliquer les maux de Deschamps.
Justement, Zidane, c'est pour quand?
Alors à la fin du mois, normalement. Normalement, ce sera officialisé d'ici à la fin du mois pour un premier rassemblement en fin septembre, où là il y aura 3 semaines pour travailler. C'est une nouveauté du calendrier. Et a priori, il est en train de peaufiner son staff, de discuter avec la Fédé pour avoir les contours vraiment de ce qu'il va pouvoir faire comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça devrait être lui. Hein. On attend l'officialisation, bien sûr, pour être catégorique. Mais ça va être surtout une page qui se tourne aussi dans le fonctionnement global de la Fédé, que ce soit les gens qui travaillent au niveau du staff et même au niveau du médical, un peu partout. Zidane devrait faire un grand ménage.
Et on aura l'occasion d'y revenir puisque c'est imminent d'ici donc, la semaine prochaine, hein, d'ici à la fin de la semaine prochaine, d'ici la fin du mois. Merci beaucoup Jean-Louis Tour depuis New York ce matin. Merci d'avoir veillé au bout de la nuit pour nous et nous avoir fait vivre ce mondial avec toutes les équipes d'RMC Sport qui vous accompagnent aux États-Unis depuis maintenant un mois. On n'a rien raté de ce mondial sur RMC. Il est 7h51. Dans un instant, le portrait du jour, Victor Pourchet.
Et il y aura deux rois à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni, Charles III, oui. Et puis le roi du Nord qui devient Premier ministre.
Et puis votre nouveau rendez-vous de l'été sur RMC, on parcourt vos villes. 4 mois après les élections municipales, on est retourné voir les maires élus ou réélus aux dernières municipales. Quelles sont leurs premières décisions? Est-ce que le quotidien a vraiment changé? On est allé vérifier sur le terrain avec les reporters d'RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure du bonus, le bonus RMC. Avec vous, Charlène Villemer, et ce matin, on parle d'une dernière pour Florent Pagny.
Mais vous n'aurez pas la liberté de penser.
C'était hier soir, dernière d'une série de 20 concerts à l'Olympia, une performance, un moment suspendu quand on sait à quel point il revient de loin. Bientôt 3 ans hein, que son cancer du poumon l'a laissé tranquille, Florent Pagny. Et il a toujours du souffle, et il en faut pour enchaîner les chansons de ses 22 albums, mais aussi ses reprises. Comme celle-ci, celle de Caruso, qui a fait pleurer Marc Lavoine, présent hier soir. C'est ce que nous dit le Parisien. À la fin du concert, Florent Pagny prévient, pas de dédicace. J'ai un mot d'excuse des médecins, rigole-t-il. Sa tournée reprendra le 12 octobre prochain.
Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h54, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Aujourd'hui, on s'intéresse à celui qui va officiellement devenir le nouveau Premier ministre britannique.
Et son nom, c'est Andy Burnham, mais son surnom...
The King of the North!
Le roi du Nord, surnom inspiré de la série Game of Thrones et hérité de ses 10 dernières années en tant que maire du Grand Manchester. Un roi sans couronne, un roi sans faste, milieu de 50aine d'années, lunettes carrées sur le nez, plus souvent en t-shirt qu'en costume, fan de foot également que l'on peut croiser de temps en temps au stade d'Everton, club de Liverpool, sa ville natale. Andrew Burnham, c'est un homme de gauche, plus à gauche dit-on que Keir Starmer qui le remplace, un enfant du Labour, le parti travailliste. Sa première carte du parti, le fils d'ingénieur et de secrétaire médical l'apprend à seulement 15 ans. Un amour de jeunesse qui souvent l'a ignoré avant son élection le mois dernier à la tête du parti. 2 fois, il tente d'être patron du Labour, 2 échecs.
Et son programme ?
Construire des logements sociaux, réindustrialiser le pays, un socialisme pro-entreprise, explique-t-il. Mais sa vraie doctrine, c'est le manchesterisme. En gros, décentraliser à tout va. Fan de rock. Au passage, Burnham finit l'appel de Londres, la capitale qui rend du pouvoir à la province. C'est ça, le thème de campagne. Ça veut dire déprivatiser certains services publics comme le réseau d'eau, donner aux collectivités plus de poids pour le logement, les transports et l'éducation. Ça passe aussi par du symbole, comme quand il promet d'ouvrir une antenne du 10 Downing Street, non pas à Londres, mais je vous le donne en mille. À Manchester, pas question en revanche de toucher au Brexit. Il s'agirait de ne pas trop froisser les électeurs de son rival d'extrême droite, Nigel Farage. D'autant qu'Andy Burnham a demandé 10 ans pour réorganiser le pays. Sur les 10 dernières années, il y a eu 7 premiers ministres britanniques. Alors attention, pour le roi du Nord, l'hiver peut vite arriver.
Winter is coming. Le roi du Nord, Andy Burnham, qui sera donc nommé premier ministre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Merci Victor Pourchet. 7h56. Et tout de suite, votre nouveau rendez-vous. On parcourt vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
Nouveau rendez-vous tout l'été sur RMC. On va parcourir la France avec les reporters d'RMC. Nous sommes allés à la rencontre de vos élus, ceux qui ont été élus ou réélus maires au mois de mars, 4 mois après les élections municipales. On est retourné les voir pour suivre leur premier pas, leur première décision, leur première mesure concrète. Que change-t-il dans le quotidien des habitants? Direction Carcassonne ce matin, chez un maire qui fait beaucoup parler de lui. Il est d'ailleurs surnommé le Trump occitan, Christophe Barthez, le nouveau maire RN qui détonne avec son franc-parler, ex-député, ex-viticulteur. Il multiplie les provocations et les polémiques, vous allez voir. Sonia Gobry du service politique RMC, c'est vous qui êtes parti à Carcassonne et ce maire Christophe Barthez vous a accueilli dans sa mairie.
Quand je rentre dans le bureau, la première chose qui saute aux yeux, c'est la photo de Christophe Barthez et Marine Le Pen en train de se serrer dans les bras à la place du portrait du président Macron. C'est pourtant une tradition républicaine.
Comprenez que je préfère avoir ma patronne au-dessus de la tête que le président de la République.
Autre mesure symbolique, derrière la fenêtre, suspendu au balcon, le drapeau français, celui de la région Occitanie, et entre les deux, rien.
Le drapeau européen était au milieu et je l'ai retiré.
Christophe Barthez s'est filmé, il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.
Manière de faire un peu de buzz.
Et des buzz, il y en a eu d'autres ces trois derniers mois.
Allez, un peu de fraîcheur.
10 millions de vues pour cette vidéo dans laquelle le maire de Carcassonne, tuyau à la main, arrose des militants syndicaux venus manifester sous ses fenêtres. Il les traite de siphonnés.
Ils peuvent taper des pieds, ils ne me feront pas faiblir.
En conflit avec les syndicats, Christophe Barthez veut les expulser de la bourse du travail, un local municipal. Et là encore, la décision a été mise en scène. Sophie Trochet, secrétaire départementale de la CGT de l'Aude, raconte.
Il est sorti, nous a jeté des cartons avec du scotch en disant commencez à préparer vos cartons. Donc voilà tous les cartons. Et on en fera de jolis pancartons revendicatifs pour la prochaine fois qu'on ira manifester, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un respect de l'état de droit.
Et des libertés syndicales, parce que pour elle, le maire RN de Carcassonne envoie un signal très inquiétant.
La seule interdiction qu'il y a eu, c'était pendant le régime de Vichy sous Pétain. C'est la seule fois où les syndicats ont été interdits et où les locaux ont été repris.
Mais ce n'est pas ce qui fera reculer Christophe Barthez.
Il ne manifeste pas contre l'extrême droite, comme d'habitude, non, il manifeste contre le maire et contre la politique du maire, alors que ce même maire leur met des locaux gratuits à disposition. Ça ne peut pas durer.
Il a aussi stoppé l'achat de pubs et les partenariats culturels avec le groupe de presse local La Dépêche du Midi. Pas assez neutre, selon lui.
Ils écrivent ce qu'ils veulent. Je ne m'attaque pas à la liberté de la presse. Je pars du principe qu'on ne mord pas la main de celui qui vous nourrit.
Argument utilisé aussi pour couper les subventions à la Ligue des droits de l'homme qui a attaqué son arrêté anti-mendicité. Toutes ces mesures et le style très cash du maire RN divisent les Carcassonnais. Certains applaudissent, d'autres, comme Christian, sont exaspérés.
Pour moi, ça reste le Front National. Ce n'est pas le RN, c'est le Front National. Ces gens-là sont un danger. Il n'y a qu'à le regarder pour comprendre ce que je vous dis.
À un an de la présidentielle, Christophe Barthez a conscience qu'il peut être gênant pour son parti.
Peut-être que j'y mets pas les formes que certains voudraient que j'y mette. Il y a certains de mes collègues, de mes amis qui passent sur les plateaux télé. Il va falloir qu'ils expliquent certaines mesures que je mets en place. Jusqu'à présent, Paris ne m'a rien dit. Ne m'a pas appelé pour me dire ralenti. J'ai eu Jordan Bardella il n'y a pas longtemps. Il va parler d'autre chose, mais pas de ça. J'ai compris qu'il fallait pas me le dire parce que ça ne marcherait pas.
Quant à son surnom de Trump occitan, il répond « Je l'accepte avec grand plaisir ».
Sonia Gobry à Carcassonne pour RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h01, vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. L'Espagne en fête depuis hier soir et la victoire en finale de la Coupe du Monde 1-0 contre l'Argentine. Vous allez voir que les nouveaux champions du monde sont attendus à la mi-journée à Madrid où une grande parade les attend. On sera dans le Tarn, dans ce journal où les habitants sont soulagés d'apprendre que les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilar. On sera aussi dans le Var où le feu ce matin n'est toujours pas fixé près de Draguignan, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes.
C'est l'Espagne tout entière qui fait la fête depuis hier soir.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et je vous propose pour commencer d'écouter l'explosion de joie des Espagnols. Ça fait mal les oreilles. Ça, c'était après le but de la victoire, donc en prolongation face à l'Argentine. Victoire 1-0 des Espagnols. La fête s'est prolongée toute la nuit et va se poursuivre, surtout aujourd'hui, puisque les Espagnols, nouveaux champions du monde, sont dans l'avion. Là, en ce moment, ils sont attendus à la mi-journée avant une grande parade qui les attend en fin de journée. Ce sera donc dans la capitale, Madrid. 1 million de personnes sont d'ores et déjà annoncées. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York où se jouait la finale ce matin en direct pour RMC. Et vous nous dites que cette équipe d'Espagne fait l'unanimité.
Les rois de tous les temps, titre ce matin le grand quotidien sportif Marca, accompagné de 3 points d'exclamation. Cette consécration espagnole est aussi une récompense pour le football dans une sélection qui met l'expérience comme son taulier et meilleur joueur du tournoi, le capitaine Rodri, et de la jeunesse avec Lamine Yamal qui a seulement 19 ans, remporte sa première Coupe du Monde 2 ans après un succès à l'Euro. Cette équipe espagnole a de quoi rappeler la génération championne du monde en 2010. Tout cela sous les ordres d'un homme, le très discret Luis de la Fuente, un pur produit de la formation espagnole. En 5 semaines passées aux États-Unis, l'Espagne n'a jamais vraiment été inquiétée. Une victoire finale pour une équipe invaincue depuis 38 matchs, un record en football international qui prive au passage Lionel Messi d'un doublé historique. Une finale qui aura notamment été marquée par les sifflets contre Donald Trump lorsqu'il a pénétré sur la pelouse et par l'incruste du président américain sur la photo de groupe espagnol qui soulève le trophée. Désormais, l'Aurora a un objectif en tête: conserver cette Coupe du Monde dans 4 ans lors du tournoi organisé à la maison.
Alors en Espagne, Nicolas Pelletier pour RMC en direct ce matin, la presse en effet est élogieuse. En Argentine, elle est bonne perdante, elle reconnaît que les Espagnols étaient plus fortes à l'image des Argentins ici dans la capitale, Buenos Aires.
Nous méritions de gagner cette Coupe du Monde, mais l'Espagne a aussi montré ce qu'elle valait. C'était une finale historique et voilà, il faudra se battre pour la Coupe la prochaine fois.
Perdre ou gagner aujourd'hui n'avait pas d'importance parce que l'équipe nationale a montré bien plus qu'une victoire. Aujourd'hui, on relève la tête et aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, on célèbre. Bon sang, aujourd'hui, on célèbre.
Ce qui nous a manqué ici, c'est de la hargne. Rien d'autre n'a manqué. C'est-à-dire que nous avons tout donné jusqu'à la dernière minute. Nous avons toujours joué et les gars ont tout donné, c'est-à-dire que je suis plus que reconnaissant.
Bon, et figurez-vous que la France a un petit peu gagné hier soir, on se réconforte comme on peut. Mais puisque Lionel Messi n'a pas marqué, c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, meilleur buteur même de l'histoire des Coupes du Monde.
Il est 8h05 sur RMC, il y a comme du soulagement ce matin dans le Tarn.
Oui, c'est confirmé, depuis hier, les ossements retrouvés la semaine dernière dans un champ sont bien ceux de Delphine Jubilar. Des analyses ont été réalisées pendant le week-end. C'est Cédric Jubilar qui avait indiqué l'endroit où il dit avoir enterré le corps il y a presque 6 ans, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, où vous vous trouvez ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès, et vous nous dites que sur place, il y a du soulagement.
Oui, effectivement, c'est bien ça, le soulagement, même s'il n'y avait vraiment pas trop de doutes de la part des habitants ici. Certains d'entre eux ajoutent même, il nous a menti des années durant. Désormais, on va vraiment pouvoir tourner la page. Pour autant, ce matin, rien n'est réglé. On ne connaît pas les causes exactes de la mort. Y a-t-il eu des violences? Et quel type de violence sur l'infirmière de Cagnac-les-Mines? Pour y voir plus clair, dans les prochains jours, des analyses sont d'ailleurs prévues. Une reconstitution également de cette soirée de décembre 2020 est envisagée. Ce qui fait dire aux avocats de la défense, aux avocats de Cédric Jubilar, que le procès en appel du 21 septembre prochain à Toulouse doit être absolument reporté. Pour cela, la balle est dans le camp de la présidente des assises de la Cour d'appel de Toulouse.
L'autre info ce matin, c'est que les nouvelles sont plutôt rassurantes. Dans le Var, près de Draguignan, aux Arcs et à Tarado, les deux communes touchées par un incendie qui a parcouru 200 hectares hier, le plus gros incendie de l'été dans ce département du Var. Il a traversé l'autoroute, détruit une dizaine de maisons, provoqué de gros soucis sur le trafic des trains et l'évacuation de 150 habitants. Célia Vallée, vous y êtes ce matin pour BFM TV et pour RMC avec les toutes dernières infos.
Le feu n'est pas fixé, mais la situation est beaucoup plus rassurante ce matin qu'hier soir. Les pompiers ont lutté toute la nuit sur les nombreux points chauds. En ce qui concerne les habitants qui ont été évacués hier, eh bien, ils ont pu regagner leurs habitations depuis hier à 22h. Il y a eu une dizaine de maisons brûlées. Les personnes qui habitent dans ces maisons sont actuellement relogées à l'école de la commune. Elles sont environ 17 personnes. La complication pour les pompiers ce matin, et ça va être aussi le cas aujourd'hui, c'est d'accéder à différentes zones escarpées. Pour cela, ils peuvent compter sur deux bulldozers qui les aident à tracer des pistes autour des chantiers et ainsi y accéder grâce à leurs engins. Et enfin, un dernier mot sur la SNCF. Le trafic ferroviaire a été coupé hier. Il a repris ce matin, je cite, avec une marche prudente, selon la SNCF.
Alors, les pompiers sont aussi mobilisés contre le feu en Haute-Corse, dans une zone escarpée, ça fait 8 jours. En Loire-Atlantique aussi, où un incendie a pris hier dans une zone résidentielle près de Saint-Nazaire, le feu ce matin est fixé. C'est l'autre information. Dans un contexte, tout ça, de sécheresse, avec une cinquantaine de départements en situation de crise, après les 3 épisodes là, de canicule, on s'inquiète même par endroit pour l'accès à l'eau potable. Écoutez avec Lucas Lobert et Martin Lange pour RMC.
Apiculteur à Quincy-le-Vicomte en Côte d'Or, Alexandre est aux premières loges pour observer les dégâts de la sécheresse.
Tout est jaune, on se dirait dans la brousse. J'ai jamais vu ça comme ça.
Les nappes phréatiques sont au plus bas et la source du village ne parvient plus à alimenter le réseau d'eau potable.
Il y a des camions-citernes qui viennent du village voisin, qui remplissent le château d'eau du village.
Une situation loin d'être inédite. À 300 km de là, dans le Doubs, la commune de Montjoie-le-Château est aussi approvisionnée par des camions. Le maire, Claude Martelet.
Ce printemps, on avait quand même des nappes archi-pleines, elles débordaient. Elles se sont vidées rapidement. Et on n'a plus d'eau, quoi.
C'est la 3e fois que la communauté de communes met en place cette distribution d'eau, un système D qui a un coût.
Il y a 2 ans, on est arrivé à 80 000 euros de livraison d'eau. Heureusement pour des petites communes comme nous, qu'on gère plus ce problème-là. Je ne sais pas comment on ferait pour payer les camions d'eau.
Des pénuries qui arrivent très tôt dans l'été, selon Anne Ducharne, hydrologue au CNRS.
Les sécheresses sont pires en août qu'en juillet. Là, on est vraiment très en avance et c'est ça qui est très inquiétant. Il y aura très certainement un nombre croissant de communes qui verront l'eau s'arrêter au robinet.
Elle plaide pour renforcer dès à présent les restrictions d'eau pour les secteurs les plus consommateurs, comme l'agriculture ou l'industrie.
Eh bien justement, c'est dans ce contexte que le projet de loi d'urgence agricole est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, après l'accord trouvé la semaine dernière entre députés et sénateurs pour réintroduire 2 pesticides controversés et aussi faciliter le stockage de l'eau pour les agriculteurs. C'est pas sûr du tout que cette version du texte soit votée. Thomas Becker du service politique à RMC. Pourquoi ? Parce que le bloc central est fragmenté. Une réunion est même prévue dans l'après-midi à Matignon.
Oui, le Premier ministre va d'abord évaluer le rapport de force. Est-ce qu'en l'état, le texte peut être voté ? La question se pose parce que la réintroduction de l'acétamipride est une mesure qui crispe, reconnaît la ministre de l'écologie Monique Barbu. Elle a mené des consultations tout le week-end. Son entourage explique à RMC que la mesure met en danger le vote de l'ensemble du texte. Ce soir, c'est la position du groupe macroniste de Gabriel Attal qui pourrait faire la bascule. Un député de ce groupe plaide en coulisses pour abandonner la réintroduction de ces pesticides pour sauver le reste du texte. Abandonner les agriculteurs, on ne peut pas se le permettre, prévient le même député. Sébastien Lecornu devra trancher dans la journée. Le gouvernement peut toujours faire évoluer le texte jusqu'à la dernière minute.
Bon, et puis c'est la 2e journée de repos sur le Tour de France qui repartira demain au bord du lac Léman. Sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez, qui a chuté et abandonné hier lors de la première étape dans les Alpes, remporté par le Belge Remco Evenepoel. Le Français Paul Sexas a concédé une minute. Il est ce matin 4e du général, à une 30aine de secondes du podium. Ce sera l'enjeu de la 3e et dernière semaine.
À suivre évidemment sur RMC l'intégral Tour cet après-midi. C'était Quentin Vinet pour le journal. Il est 8h10 et on va tout de suite à Grenoble en direct ce matin. On est avec Alain Brunon. Bonjour à vous. Vous êtes élu municipal, président du groupe LFI à la mairie de Grenoble. Samedi soir, vous avez organisé, vous aviez même appelé à cette manifestation pro-palestinienne qui a interrompu le concert de la DJ Barbara Butch au motif qu'elle a soutenu une proposition de loi contre les nouvelles formes d'antisémitisme. C'était il y a quelques mois, vous étiez plusieurs dizaines. Pourquoi interrompre un concert ? Vous, élu LFI, vous assumez d'empêcher une artiste de se produire sur scène ?
Écoutez, nous n'avons empêché personne de se produire sur scène puisque Madame Barbara Butch s'est produite sur scène.
Bah, elle a interrompu. Elle est partie au bout de 20 minutes, donc le concert
a été interrompu. Elle a interrompu elle-même son concert, c'est vrai. Et bien
sous
évidemment,
les sifflets,
les interpellations. Personnes qui se sont mobilisées évidemment pour faire en sorte de dire et de créer notre colère que nous n'étions pas d'accord avec la signature d'une tribune appelant au vote de la loi Yadan, qui est une proposition de loi qui avait vocation à criminaliser les soutiens du peuple palestinien et de placer comme une pas seulement une critique, mais un délit pénal.
On va juste préciser quel était l'objet de cette proposition de loi. C'était donc la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme, avec un texte qui avait fait polémique à ce moment-là, puisqu'il élargissait le délit d'apologie du terrorisme. Sauf que ce texte a été retiré depuis, donc le débat est clos, et ça n'était pas vraiment le sujet de sa prestation. Elle venait juste jouer de la musique, je vois pas très bien le rapport.
C'était le sujet d'une artiste qui a pris position par cette signature-là. Et donc, bien évidemment, qui s'est exposé. Et donc, il fallait s'attendre en retour à ce qu'il y ait des militants, d'autant plus à Grenoble, qui est une ville berceau de la résistance, qui ne soit pas d'accord avec cette loi, qui est une loi, monsieur, qui a vocation et qui avait vocation à lutter.
Qui a été retirée,
non
qui
pas
n'existe
contre l'antisémitisme,
plus.
Monsieur, qui n'avait pas vocation à lutter contre l'antisémitisme et qui avait vocation à criminaliser les soutiens du peuple palestinien.
Donc, et qui a été retirée et qui n'existe plus.
Qui a été retirée, mais la signature existe encore et madame Barbara Butch est allée se produire à Tel Aviv en plein génocide quand il y avait des militants palestiniens qui essayaient de briser le blocus naval à Gaza. Vous savez, c'est aussi un élément qui est intéressant à pointer du doigt.
Le ministre de l'Intérieur vous accuse d'antisémitisme, d'intimidation. Dit-il, ça n'a pas sa place dans la République. Hier, samedi soir, il y a eu des sifflets, des doigts d'honneur, des insultes. Il y a eu des jets de bouteilles en verre et des installations électriques dégradées.
Oui, oui, ça c'est ce qu'il dit. Nous ne le croyons pas.
C'est la mairie qui dit ça. C'est la mairie de Grenoble qui dit ça.
Nous ne croyons pas non plus la mairie de Grenoble. De notre côté, il n'y a eu aucune violence. Simplement des militants pacifistes. J'étais en première ligne de ces militants qui ont simplement brandi des drapeaux palestiniens et crié leur colère de voir que dans ce pays, il y a toujours une criminalisation permanente des militants pro-palestiniens, alors même que le génocide se poursuit à Gaza. Le ministre de l'Intérieur a beau dire ce qu'il veut, c'est un menteur absolu quand il nous traite d'antisémites, mais nous avons l'habitude avec lui, qui est un censeur de premier plan lorsqu'il a voulu notamment interdire la fête de la musique de la France Insoumise
et
à
antisémitisme
Paris, et que personne
pas,
n'a trouvé rien d'autre à redire. Mais ça c'est faux, personne n'est antisémite
oui, alors,
à la France Insoumise.
Ce qui est vrai, c'est que vous avez interrompu un concert et que ce matin, sur RMC, on entend que vous assumez, vous élu municipal LFI, vous assumez d'avoir interrompu un concert, donc un événement culturel. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Alain Bruno. Il est 8h14 sur RMC. Dans un instant, l'économie avec Emmanuel Lechypre et puis on va revenir sur l'affaire Jubilard. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Vous êtes un ex-commandant de la police judiciaire. Que change la découverte des ossements découverts à Cagnac-les-Mines et dont on a la confirmation qu'ils étaient bien la dépouille de Delphine ce matin? Qu'est-ce que ça va changer 5 ans et demi après la mort de Delphine dans cette enquête? Est-ce qu'on peut encore comprendre les causes de la mort? On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h17 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Jean-Pierre Colombiès, merci d'être avec nous. Rebonjour. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire, auteur de La face obscure de la police. Vous êtes en studio avec nous ce matin alors que l'enquête sur la mort de Delphine Jubilard il y a 5 ans et demi dans le Tarn a connu donc un rebondissement ces derniers jours. On a eu confirmation hier soir que les ossements retrouvés jeudi étaient bien ceux de Delphine Jubilard. Ils sont donc identifiés. Cédric Jubilard a dit vrai, il a mené les enquêteurs jusqu'au lieu où il avait enterré la dépouille de Delphine Jubilard. Est-ce que 5 ans et demi après, on peut espérer en savoir davantage?
Si on reste sur un point de vue technique, scientifique, il y a peu de chance, très peu de chance. Il a avoué sous la contrainte des événements, Cédric Jubilard. Hein. Là, on est dans un, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais c'est une forme de poker judiciaire sur la cour d'assises. Il y a eu une première partie, un premier challenge qui a été perdu par ses premiers avocats et lui-même, qui basaient toute leur défense, tout leur argumentaire sur l'absence d'éléments concrets qui ne pouvaient déboucher que sur l'acquittement. Perdu, le bluff a perdu, et il a été condamné à 30 ans de réclusion, ce qui est en tout cas la démonstration.
Donc pour vous, c'est uniquement une stratégie pour tenter d'obtenir une forme de clémence en appel?
Clairement, et j'assume tout à fait ce point de vue. Il a perdu. Ça prouve en tout cas que, contrairement à ce que dit son avocat actuel, Maître Dubuisson, qui nous réserve à chaque fois une sorte de de show jubilar dans le cadre duquel il joue le rôle du clown blanc. L'enquête n'a pas du tout été bâclée, elle a été très bien faite, très bien menée, et elle a mené à la condamnation de Cédric Jubilar. Et ce qu'il tente de faire aujourd'hui, c'est d'aboutir à une autre qualification, à un autre contexte qui a amené
la c'est sa thèse de la dispute qui a mal tourné. Juste sur l'aspect recherche scientifique, puisque là on sait que c'est les experts de l'IRCGN, donc c'est les laboratoires de la gendarmerie qui travaillent sur ces ossements qui ont été retrouvés. On sait que l'ensemble de la dépouille n'a pas été retrouvé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et est-ce qu'ils peuvent réussir à retrouver des choses qui nous donneraient des indications sur les causes de la mort?
Ah, vraiment, les examens qui ont été réalisés ont permis de confirmer ce que tout le monde pensait, en toute logique, c'est qu'il s'agissait des ossements de Delphine. Pour en savoir plus, il aurait fallu retrouver la partie haute, notamment le crâne, les cervicales, enfin tout ce qui est en rapport avec une situation d'étranglement. Mais j'ai presque envie de vous dire que même si on les retrouvait, ça changerait pas grand-chose quant à la posture qu'a décidé d'adopter Cédric Jubilar, dès lors que ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a une graduation dans les peines, d'accord ? Coups et blessures et entraîner la mort, 15 ans. Sur conjoint, 20 ans. Si c'est un meurtre, 30 ans. D'accord ? Si, par contre, au cours de, je dirais, ce qui va précéder le prononcé de la condamnation, à savoir le délibéré, la question de l'assassinat est posée et que la réponse est oui, c'est la perpétuité. Donc, la structure de la défense qui est en train de se mettre en place, c'est on va créer une histoire, et c'est pour ça que je vous dis que même la découverte du crâne ou de quelques autres ossements ne changerait rien à la tactique qu'il est en train d'ébaucher, parce que lui a commencé déjà à dire que c'était une dispute qui avait mal tourné.
Pour vous, il y a une forme de cynisme total, à dire, à exprimer des regrets qu'il dit sincères, à dire je fais ça pour mes enfants. En réalité, tout cela est une stratégie de défense.
Et je vous renvoie tout simplement aux images qu'on a de lui depuis le début, et notamment pendant l'audience. Je ne sais pas du tout quelqu'un. Alors Dubuisson nous a présenté un type qui était en état second, en état de zombie. Regardez-le quand il arrive dans le prétoire, enfin quand il arrive dans le box des accusés, pardon. Il est parfaitement à l'aise, il est très décontracté, il s'entretient de la façon la plus naturelle qui soit avec son avocat de l'époque. Enfin, c'est pas si vieux que ça, de l'année dernière. Non, tout va très bien pour lui. Et vous savez, il est dans cette posture du show, du vedettariat judiciaire. On parle de lui, il est au cœur du système, et c'est ça, à mon avis, qu'il faut casser. Et la meilleure façon de le casser, ça, en tout cas c'est mon point de vue, ça ne vaut que pour ce que j'en pense, c'est de maintenir la date,
parce que j'allais vous demander,
du 21 septembre,
le reporter ce procès en appel, ce serait lui donner raison, ce serait jouer, ce serait aller dans son sens.
Il joue la montre, ses avocats jouent la montre avec vraiment des arguments, mais qui sont d'une bassesse absolument inégalable depuis des années, en mettant en cause, un, l'enquête des gendarmes, qui, je suis navré, était parfaite puisqu'elle a amené sa condamnation à 30 ans, y compris la posture de ses avocats, puisque quand vous insinuez que vous seul avez su créer les conditions de la confidence, ça veut dire que les autres étaient nuls, en tout cas étaient pas très bons, contrairement à tout ce qui a été dit à l'issue de l'audience, où le talent, en tout cas la qualité professionnelle de ses avocats a été reconnue. Et puis vous désavouez vous-même, parce que vous dites oui, l'enquête est bâclée. Bah non, elle est pas si bâclée que ça, il avoue. Donc s'il avoue, c'est que c'était bien lui, nous sommes bien d'accord, je n'entends rien.
Merci
donc
beaucoup.
Il est bien coupable.
Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Colombiès d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC, RMC Story. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire. Il est 8h22, c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Lechypre. Emmanuel, on connaissait le vainqueur de la Coupe du Monde avant même le coup d'envoi de la finale Espagne-Argentine hier soir. Le vainqueur sur le plan économique.
Oui, absolument. Et ce vainqueur, c'est Adidas, puisque hier soir, les deux équipes finalistes et le ballon de la compétition arboraient les célèbres trois bandes de la marque allemande. Alors, le match était serré avec Nike, hein. Sur le papier, il l'est pas, puisqu'il faut rappeler que Nike, c'est quasiment l'équipementier numéro un mondial, qui est deux fois plus gros, quasiment, qu'Adidas. Sauf que là, pour le mondial, il y avait match, puisque la marque américaine habillait 12 équipes de cette Coupe du Monde, dont le Brésil, la France, l'Angleterre. Adidas en équipait 14, mais sur les 14, il y avait les deux finalistes, l'Espagne et l'Argentine, alors que Nike équipait les deux équipes de la petite finale, la France et l'Angleterre.
Adidas ne gagne pas seulement donc sur le plan sportif.
Non, Adidas gagne évidemment sur le plan financier, autour de 1,5 milliard d'euros de recettes liées à la Coupe du Monde, dont il est aussi le partenaire officiel. Il faut rappeler que Adidas équipe la Coupe du Monde en ballon depuis 1970, et qu'à chaque Coupe du Monde, c'est quand même 15 millions de ballons vendus à peu près. En France, c'est 150 euros pièce, donc voyez ce que ça représente. Adidas gagne sur les réseaux sociaux, Selon les données de l'agence Creator IQ, la valeur médiatique générée par les publications sur les réseaux sociaux a frôlé 50 millions de dollars au cours des trois premières semaines de compétition pour Adidas, contre 30 seulement pour Nike. Les ventes de maillots, n'en parlons pas, hein. Il y a 1,5 à 2 millions de maillots qui sont vendus de l'équipe gagnante après la Coupe du Monde. Et puis surtout, pour le plus important, Adidas gagne sur le marché américain, puisque l'écart de part de marché entre Adidas et Nike est plus faible dans les pays où le foot est ou devient populaire. Et là, il va y avoir un engouement pour le foot aux États-Unis qui laisse penser qu'Adidas va faire de beaux résultats sur les terres mêmes. Sur les terres mêmes de Nike.
Voilà, le business de la Coupe du Monde et le vainqueur avec Manu Le Chypre ce matin. Il est 7h24. Allez, on va rire un peu maintenant. Il a pris évidemment un peu de vacances, Arnaud Demanche, mais il est avec nous tout l'été. On vous a gardé le meilleur.
Et oui, bonjour. Bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. On va rigoler. Ouais. Tiens, et Apolline.
En moins dangereux.
Est-ce que vous...
moins dangereux.
En moins dangereux, ouais. Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie, où le grand favori pour les élections du jour s'appelle Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si. Rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, dépend au fond, le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona. Il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël. C'est
ouais.
Arthur Chevalier c'est qui expliquait ça tout à l'heure.
Référence à la très belle chronique d'Arthur.
Très belle
Chevalier.
Chronique d'Arthur et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué: je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler
vaguement,
sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Mais faut rigoler parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé.
Oui.
François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina français à nous. Notre couple glamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique,
c'est
pour
moins
surveiller
bien
ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf, ses fringues. Qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu veux le contenu?
Sinon, il y a la bouffe.
Ouais,
Hollande, il est rentré chez lui, il fait « Oh les salauds, ils ont volé le restant de pâté. Non, non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. » Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit, j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé assez
les aimants,
de...
ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements. Il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait « Oh non, non! Julie, recommande des cordons bleus !» Quelle abnégation pour rien. C'est ça, un président.
Chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews a lancé une déclinaison, ça s'appelle CNews Prime.
Oui, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré qui a dit « On va lancer un nouveau CNews, un CNews 2, et je serai le maître du monde !» Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3, je vous ai rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews,
Super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin.
J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma.
Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera Les Visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourvil dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma. Allez, à demain.
Arnaud Demange à retrouver en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo et le journal. 8h32.
RMC, Apolline Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les Arcs-sur-Argent et Tarado touchés par le plus important incendie de l'été dans le Var. Incendie toujours pas fixé ce matin. Près de 200 hectares brûlés et des maisons ravagées par les flammes. La riposte américaine s'intensifie. 9e nuit de frappe sur l'Iran. Réaction après la mort de ses militaires, notamment un soldat hier en Irak. Et l'Espagne se réveille avec une deuxième étoile. Victoire 1-0 cette nuit face à l'Argentine. Et ce matin, on s'intéresse également aux défis qui attendent le futur sélectionneur pressenti des Bleus, Zinedine Zidane.
L'incendie n'est toujours pas fixé dans le Var.
La situation s'améliore ce matin selon les pompiers, toujours mobilisés et épaulés par des canadaires bombardiers d'eau. Les dégâts, eux, sont importants. 10 maisons ravagées par les flammes, près de 200 hectares brûlés, 150 habitants évacués. Et certains ont pu regagner leur logement. Les explications ce matin du maire des Arcs-sur-Argent, Marcel Florent.
Hier soir, on leur a donné l'autorisation de revenir chez eux à pied, sans véhicule. On a actuellement donc dans notre école 17 personnes, soit des gens qui ont perdu leur maison, soit des gens qui sont avec une santé précaire. Donc on les a sécurisés pour toute la nuit. Ce matin, un travail de relogement qui va être fait. Et puis, pour certains, on va les réaccompagner chez eux, voir s'ils peuvent être accueillis dans leur famille.
Les pompiers espèrent pouvoir fixer cet incendie ce matin. Incendie qui a provoqué hier une grosse pagaille sur le réseau SNCF entre Marseille et Nice. Des TGV et TER annulés, perturbés. Le trafic SNCF entre Marseille et Nice a repris ce matin. Autre incendie hier près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il est fixé ce matin. 20 hectares ont brûlé et 3 maisons ont été ravagées par les flammes.
8h34, c'est la 9e nuit consécutive de frappe américaine en Iran.
Et dans le viseur des centres de commandement et des réseaux de communication. Et Henri Arnaud, correspondant à Washington pour RMC, Donald Trump veut venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient, notamment un militaire hier en Irak.
Ce soldat a été tué lors d'une opération de neutralisation d'un drone attribué à l'Iran et abattu par les Américains. Mais au-delà de cet incident, c'est toute la confrontation entre Washington et Téhéran qui se durcit depuis plusieurs jours avec des frappes américaines et des menaces de riposte iranienne. Ce dimanche soir, Donald Trump a une nouvelle fois affiché sa fermeté, affirmant que l'Iran a été lourdement affaibli ces dernières heures à nouveau avec des frappes en hommage à ses militaires et ses soldats tués. Il a également laissé entendre que cette campagne militaire pourrait se poursuivre. Une nouvelle escalade qui pose désormais une question centrale. Après la mort de plusieurs militaires américains et la multiplication des frappes, jusqu'où Washington et Téhéran sont-ils prêts à aller ?
Il est 8h35 et la grande migration estivale est lancée.
Il y a des centaines de kilomètres de bouchons hier sur les routes, mais à l'arrivée, la mer, le soleil et les vacances à Valras-Plage dans l'Hérault, les nouveaux arrivants savourent leur premier jour de repos. Charlotte Guerre est allée à leur rencontre.
Direction la plage et les copains pour Lisa, 23 ans, et son père qui ont quitté Caen pour la Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche.
On vient chercher un peu de fraîcheur, un peu de vent frais, ça fait du bien. Quand il fait aussi chaud.
Et au programme,
ça va être plage, jet ski, Apéro.
Et pour son père.
Au repos, ouais. Ça fait du bien, ouais, du bien. On a besoin.
Pour Renaud, France et leurs enfants Iseur et Zachary qui sont arrivés d'Ardèche ce vendredi, le début des vacances rime surtout avec la gourmandise.
C'est manger une grosse coupe de glace. C'est un peu la tradition, nous, les glaces, c'est notre dada avec les enfants. L'été, c'est les glaces.
La famille a même acheté un mobil-home ici pour profiter de la région.
Là, c'était vraiment l'histoire de se retrouver en famille ici, changer de cadre.
Quant aux enfants, ils ont déjà trouvé leur activité préférée, c'est la baignade.
Profiter de la plage, des activités au camping, la piscine, ils sont tous baignés.
Une chose est sûre, Iseur célébrera son anniversaire cette semaine, les pieds dans l'eau.
L'Espagne sur le toit du monde. Les partenaires de Yamal ont réalisé le doublé Euro, Coupe du Monde. Victoire dans la nuit 1-0 après prolongation face à l'Argentine. Ferran Torres, seul buteur du match. Des festivités qui ont tourné au drame. Un adolescent est décédé cette nuit lors des célébrations.
Et côté français, la page des champs est tournée. Place au chapitre Zidane.
Après la défaite des Bleus dans la petite finale du Mondial, un nouveau sélectionneur va arriver sur le banc tricolore, Zinedine Zidane. Et le chantier Arthur Perrault est déjà immense. Renouveler l'équipe et relancer une machine qui a besoin d'un nouvel élan.
Oui, après l'élimination des Bleus en demi-finale de cette Coupe du Monde, Zinedine Zidane est déjà attendu. Il va devoir rapidement remobiliser le groupe France. Le consultant RMC Sport, Emmanuel Petit.
Si Dédé avait gagné une deuxième Coupe du Monde, l'héritage aurait été extrêmement lourd quand même. C'est pas insurmontable non plus.
Mais pour l'ami intime et coéquipier de Zinedine Zidane en 1998, le charisme de l'ancien entraîneur du Real Madrid va l'aider à se démarquer.
Quand Zizou rentre dans une pièce, tout le monde se tait, même quand il parle pas. J'imagine que les joueurs, certains d'entre eux ont peut-être hâte de jouer sous les ordres de Zizou. Moi, c'est surtout un meneur d'hommes que j'ai envie de voir.
Sur le terrain, le technicien de 54 ans va devoir trancher dans la rupture avec son prédécesseur, le consultant RMC Sport, Jérôme Roten.
Il ne peut pas faire du copier-coller par rapport à ce que faisait Didier Deschamps. Est-ce qu'il sera dans la continuité avec Kylian sur le rôle de capitaine? Je pense que oui.
Selon nos informations, l'annonce de la nomination de Zinedine Zidane devrait intervenir en fin de semaine ou début de semaine prochaine, avec un contrat jusqu'à la Coupe du Monde en 2030.
Jour de repos sur le Tour de France après une journée de rebondissement à l'abandon de Vingegaard, victime d'une chute, clavicule cassée. Le Belge Evenepoel a remporté l'étape au sprint devant Pogacar et s'empare de la deuxième place. Le Français Sexas perd son maillot blanc au profit d'Isaac Del Toro.
Le quintet du jour, c'est à l'hippodrome de Vichy aujourd'hui, 18h30.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 6, Maximilien, son outsider, et le 3.
C'était le journal de Clément Guide sur RMC. Il est 8h38 dans un instant. Le choix de la rédaction et la France qui s'apprête à devenir le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce une bonne idée? Tiens, on vous attend au 32-16. Et puis on va revenir sur la sécheresse record, les récoltes en chute libre et ce vote d'une loi d'urgence agricole qui met le monde politique et le monde agricole sous tension. Maxime Buizard, le vice-président des jeunes agriculteurs et lui-même céréalier, est avec nous dans un instant en direct. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, RMC Story, il est 8h42. C'est le choix de la rédaction ce matin. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Le Parlement doit se prononcer d'ici demain et la France deviendrait le premier pays d'Europe à interdire TikTok, Snapchat ou Instagram aux moins de 15 ans. La loi pourrait être mise en place dès la rentrée de septembre 2026. Et il est temps, hein, c'est ce que vous nous dites, Bérangère Bocquillon.
Oui, parce que c'est désormais prouvé. Les réseaux sociaux sont mauvais pour la santé physique et psychique des adolescents. Et TikTok en particulier a un algorithme qui expose les jeunes à des contenus qui peuvent être violents, misogynes, homophobes, le terreau idéal pour du harcèlement ou de la désinformation. Sans compter que les adolescents y passent de plus en plus de temps. C'est ce qu'ils ont confié à Antonin Audion.
TikTok, 3 heures aujourd'hui.
Snapchat par semaine, c'est 28 heures. TikTok, c'est 14 heures.
Je pense que ma mère, elle serait pas contente. Je pense pas qu'elle au courant que je fais 8 heures par jour. Elle regarde souvent mon téléphone, mais je cache et mon père il regarde pas.
Moi j'ai Insta, Snap et TikTok. Souvent on est un peu hypnotisé par ça et on n'arrive plus à s'arrêter et on se rend pas compte du temps qui passe. T'as un peu la flemme de tout faire après.
Le jeune il était au sol, il était en train de se faire taper. Il fait plusieurs fois parce qu'on scroll, après il y a une autre vidéo qui parle de la même chose.
Ah, moi je suis sur TikTok, j'ai l'impression de perdre mon temps tout le temps. Pourtant je reste, je continue à scroller. Souvent avant de dormir et du coup on est fatigué.
Parole de ces jeunes au micro RMC qui dorment moins, ça se ressent sur leur santé mentale avec des conséquences parfois terribles.
Oui, Martine est la maman de Lilou qui s'est suicidée le 23 avril 2023.
Elle avait 14 ans, ça faisait un mois qu'elle avait 14 ans.
Martine lui a offert un smartphone l'été de son entrée en 6e pour qu'elle puisse rester en contact avec ses amis. Elle autorise l'application TikTok l'année suivante.
Évidemment, je l'avais mise en garde contre les dangers de certains réseaux, mais je pensais plutôt aux prédateurs sexuels, au harcèlement, de ne pas envoyer de photos. Et je vois dans la voiture qu'elle regarde des vidéos où je vois des gens qui sont en dépression et qui en parlent. Et il y a des filtres qui rendent ça glamour, et il y a des petites musiques qui vont bien. Et je vois qu'elle enchaîne des vidéos comme ça.
Comment se scarifier ? Quand tu seras morte, tu seras libérée. Toutes ces vidéos ont été vues par Lilou. Martine a donc porté plainte avec 15 autres familles de victimes pour abus de faiblesse contre TikTok.
Quand j'ai commencé un petit peu à reprendre pied, on va dire, je me suis dit, c'est peut-être pas les réseaux qui l'ont mis en dépression. On n'est pas sûr. Par contre, s'il n'y avait pas eu TikTok, on aurait eu plus de chances de pouvoir la sauver. Et en fait, ça a été avéré par l'enquête et par les vidéos qu'on a retrouvées, quoi.
Ouais, on voit bien qu'il y a bien urgence à voter cette loi.
Oui, c'est ce qu'affirme la pédiatre Sylvie Diozica, membre du collectif sur exposition écran. Elle reçoit des ados de 11 ans ou parfois moins qui dorment 3 heures par nuit, des jeunes filles obsédées par la minceur à cause de vidéos sur les réseaux sociaux et les parents qu'elle voit n'ont pas toujours conscience du danger. Pour elle, il faut envoyer un signal fort à tous les parents d'adolescents.
Les messages sont brouillés. Un jour on dit « Ah, c'est dangereux », puis un jour on dit « Ah, bah non, c'est pas si mal ». Ça permet d'échanger avec ses ados, puis il faut vivre avec notre temps, et puis maintenant le monde est numérique. Non, le produit est dangereux. Il est fait pour être addictif. C'est comme pour le tabac, c'est interdit à tel âge. L'alcool, c'est interdit à tel âge. Il faut que l'État donne un message très fort. C'est absolument indispensable.
La proposition de loi prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Et on saura d'ici demain si cette loi est votée et quand elle pourra s'appliquer. Merci Bérangère Bouquillon, chef du service société d'RMC, le choix de la rédaction ce matin. 8h46, dans un instant, l'invité d'Apolline Matin, c'est Maxime Buizard, vice-président des jeunes agriculteurs. La guerre de l'eau est-elle déclarée? On est en pleine sécheresse historique et les députés doivent se prononcer ce soir sur une loi agricole qui doit justement permettre aux agriculteurs de stocker l'eau. Est-ce une privatisation de la ressource, comme le dénoncent les écologistes? On en parle dans un instant et vous réagissez bien sûr au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h48 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Nous traversons une sécheresse historique. La quasi-totalité du territoire est concernée. 55 départements sont déjà considérés en état de crise. Bonjour Maxime Buizard.
Bonjour.
Vous êtes céréalier dans le département du Loiret, département qui a été très touché par la canicule ces dernières semaines. Et vous êtes aussi le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. C'est dans ce contexte de canicule et de sécheresse que le Parlement doit se prononcer ce soir sur cette loi d'urgence agricole, dont le point dur est justement le stockage de l'eau, avec également la question des pesticides. On va y revenir d'abord. Quel est l'impact pour vous de cette sécheresse sur les cultures?
L'impact, comme pour tous les agriculteurs français, est très important. On a connu 3 épisodes de sécheresse depuis la mi-mai. Et donc, les céréaliers se retrouvent confrontés à des baisses de rendement de 15 à 40% suivant les territoires. C'est inédit d'avoir une sécheresse aussi forte et aussi impactante sur l'ensemble du territoire national.
Ça veut dire qu'il va y avoir des pertes en revenus pour beaucoup d'agriculteurs?
C'est-à-dire qu'après 2 années, où déjà les revenus des agriculteurs étaient tout juste à l'équilibre ou légèrement négatifs, 2026 va être une année catastrophique. Beaucoup de nos collègues se retrouvent dans l'incapacité de financer la prochaine récolte, la prochaine moisson qui va venir cet automne.
Alors évidemment, dans ce contexte, on entend et on comprend bien que la question de l'eau est cruciale pour beaucoup d'agriculteurs qui demandent donc à pouvoir stocker cette eau. C'est toute la question qui tend les débats, notamment sur cette loi d'urgence agricole. Mais c'est vrai que quand on vit ce type de sécheresse, qu'on voit, on en parlait un peu plus tôt ce matin, qu'il y a aussi des risques sur les quantités d'eau potable disponibles pour les Français, est-ce bien raisonnable de se dire qu'on va stocker l'eau pour l'agriculture?
C'est plus que raisonnable, c'est la solution. Pour le coup, face à des sécheresses en été de plus en plus importantes, la solution, c'est de stocker l'eau qui est en excédent en hiver. Vous vous rappelez sans doute, en février-mars, on a eu une grande partie du pays qui a subi des inondations suite à des pluies très importantes. Et donc, inspirons-nous de ce qui marche dans des pays qui ont déjà un climat plus chaud. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Maroc. Et qui se donnent les moyens de stocker l'eau en excédent en hiver pour la réutiliser en été pour tous les usages. Évidemment, en priorité pour l'eau potable, mais également pour l'agriculture, pour maintenir le niveau des cours d'eau et donc maintenir la biodiversité. Également pour faire des réserves d'eau en cas d'incendie.
Sauf que certains de ces stockages agricoles pompent cette eau dans les nappes phréatiques. Donc ça peut aussi engendrer d'autres problèmes et ça enlève de l'eau des sols. Est-ce que c'est vraiment une solution de long terme ou est-ce qu'il ne faudrait pas changer finalement ce qu'on cultive en France ?
Mais pour le coup, on peut changer ce qu'on cultive, mais quoi qu'on cultive, pour le coup, il y aura toujours besoin d'eau. Il y a des cultures qui sont plus ou moins gourmandes en eau. Mais quand ça fait, comme là, plus de 6 semaines qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau dans plus de la moitié du pays, aucune culture ne peut survivre. Et donc, sans irrigation, nous ne serons pas en capacité de maintenir la puissance agricole française et de maintenir notre souveraineté alimentaire.
Mais le maïs, par exemple, qui est très gourmand en eau en été, justement, dans les périodes où on en manque, est-ce qu'il est encore possible, à l'avenir, de se dire qu'on va continuer à cultiver du maïs ?
Oui, il est possible. Tout simplement parce que aujourd'hui, il pleut autant en France que ce qu'il pleuvait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et il pleuvra autant en 2050 que ce qu'il pleut aujourd'hui. Simplement, la répartition annuelle de la pluviométrie n'est pas la même. Il pleut beaucoup plus en automne et en hiver, beaucoup moins au printemps et en été. Et donc, nous avons la capacité de pomper l'eau qui est en excédent dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, en hiver, pour la réutiliser ensuite en été. Alors c'est ce que fait l'Espagne depuis 30 ans. Et ça a permis à l'agriculture espagnole de devenir le leader européen, ce que nous étions autrefois en France.
Cette question, elle tend les débats politiques sur cette loi agricole, avec notamment les écologistes qui dénoncent une forme d'accaparement de la ressource en eau, voire de privatisation de la ressource en eau. Vous craignez une forme de guerre de l'eau entre les agriculteurs et les écologistes ?
Non, on ne craint pas une guerre de l'eau, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est pas une ressource qu'on privatise, c'est pas une ressource qu'on consomme. On a la démocratie locale de l'eau qui fonctionne avec les agences de bassin, avec les commissions locales de l'eau, où siègent à la fois les représentants agricoles, les représentants des collectivités, les autres acteurs économiques qui sont autour de la table. Et on a démontré sur des grosses nappes phréatiques, comme la nappe de Beauce, la capacité de gérer la ressource avec raison, avec efficacité. Ce qu'il nous faut, c'est démultiplier ce qui marche.
Donc vous attendez le vote de cette loi ce soir, il est indispensable ?
Ah, il est indispensable. Je rappellerai que cette loi, elle avait été annoncée par le Premier ministre au mois de janvier, après plus de 5 semaines de mobilisation agricole pour faire face à la détresse. Évidemment, elle touche le sujet de l'eau, mais elle touche aussi le sujet de la prédation et des loups qui attaquent les éleveurs de montagne. Et donc oui, le vote de cette loi est indispensable. C'est notre dernier créneau avant l'échéance présidentielle. On sait que dans les 1 an et demi qui vient, nous n'aurons pas la capacité de porter de nouveaux textes agricoles. Et donc l'adoption de cette loi d'urgence est très attendue.
Avec une incertitude quand même sur le vote ce soir qui est lié peut-être moins à l'eau qu'aux pesticides, qui est l'autre sujet qui tend les débats, la question notamment de l'acétamipride dont les sénateurs ont introduit la réautorisation dans cette loi. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre le vote de cette loi ? Est-ce qu'il est bien raisonnable d'aller vers cette réautorisation ?
Oh ben, il est raisonnable de permettre à l'ANSES, qui est notre autorité sanitaire, de réhomologuer, donc de mettre sur le marché l'acétamipride. Je rappellerai simplement que dans les 26 autres pays de l'Union européenne, cette molécule est autorisée. Elle est interdite en France uniquement pour des choix politiques qui avaient été faits en 2017, qui mettent à mal les filières françaises de
sur la base aussi d'études sur sa dangerosité quand même.
On non, pour le coup, l'ANSES n'a jamais retiré l'homologation de l'acétamipride. C'est un choix qui avait été fait par les députés en 2017, qui n'est pas fondé et qui est contraire au choix qu'ont fait les 26 autres pays de l'Union.
Merci beaucoup Maxime Buzard d'avoir été avec nous en direct ce matin, vice-président des jeunes agriculteurs. Il est 8h54 et dans un instant, c'est les grandes gueules, les GG avec Olivier Truchot. Salut Olivier.
Salut, bonjour à tous, les grandes gueules. Alors plus besoin d'écouter l'after foot parce qu'il y a les grandes gueules qui vont parler
de le débrief.
Alors, propre bilan de la Coupe du Monde. Vous allez voir, ça va être d'un très très haut niveau, notamment avec Charles Consigny, Laura Marteau-Martinez et Bruno Poncet. Alors cette Coupe du Monde, est-ce qu'on la regrette déjà. Elle s'est terminée hier soir. On parlera des voyous argentins, on parlera des adieux de Deschamps, de l'équipe de France. Bref, on a quand même passé 4 semaines et demie formidables. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire de nos soirées?
On va regarder le Tour de France.
Ouais. Ça va être difficile le soir, mais bon, pourquoi pas. Allez, en tout cas, on vous attend au 32-16. Dites-nous comment vous avez vécu cette Coupe du Monde avec les grandes gueules dès 9h, 9h midi sur RMC, RMC Story.
À tout de suite pour les GG. Très belle journée sur RMC.